So, le matin. Come together.
On vous souhaite un excellent vendredi. Merci d'être bien présent sur notre antenne. C'est le fun. On est le 5 décembre 2025. Demain, les amis, il va falloir s'en souvenir. C'est, vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la Polytechnique? Je pense que c'était en 1989, précisément le 6 décembre 1989. C'était la fin de session à la Polytechnique et les étudiants étaient en train de préparer leur examen. Ils se livraient aussi à leurs derniers exposés. Ils photocopiaient leurs derniers travaux de fin d'année. Des décorations de Noël étaient partout dans la cafétéria. Et dehors, ce qu'on nous mentionne à l'époque, c'est qu'il y avait une petite neige qui était mêlée de grésil qui tombait sur la ville. Puis vers 17h10, le 6 décembre 1989, tout a basculé. Entre le premier et le dernier coup de feu, s'est écoulé 20 minutes, 20 longues minutes où 14 femmes ont été assassinées et 14 personnes, il y avait des femmes et des hommes à ce moment-là, qui ont été blessées dans une tuerie qui a traumatisé la société québécoise. Il y a un récit complet dans la presse sur la tragédie, mais c'est à laisser froid dans le dos. Au deuxième étage, il y a un homme qui est âgé de 25 ans, Marc Lépine, alias Camille Garbi, parce que c'était son vrai nom, était vêtu d'un jeans bleu et des bottes Kodiak et était assis sur un banc à l'entrée du local du registrariat. Et il n'est pas étudiant, même s'il a déjà été inscrit en 1986. Il a été vu trois fois dans la semaine précédente. Il bloque partiellement l'accès au local. Les étudiants doivent l'enjamber pour circuler. On le voit fouiller dans un sac de plastique. Sans en montrer le contenu, il y a un employé qui s'approche pour lui demander si elle peut l'aider. Il répond pas et quitte les lieux. Il erre un moment, puis il se dirige vers une classe et c'est là que la tragédie commence. C'est une histoire à laisser froid dans le dos que vous pouvez lire sur la presse. On a eu idée d'en parler avec Céline Rousseau, qui est une excellente psychiatre. Elle est professeure titulaire à la chaire de recherche du Canada en radicalisation violente. Bonjour, Mme Rousseau.
Bonjour.
Docteur Rousseau, comment vous avez vécu cette tragédie-là de votre côté? Parce que moi, j'étais très jeune à l'époque, mais je m'en souviens pour l'avoir suivi dans les médias. Vous, de votre côté, est-ce que vous étiez dans le secteur de Montréal à l'époque?
J'étais à Montréal. En fait, j'étais une jeune professionnelle et j'avais un très, très jeune bébé à ce moment-là. Et effectivement, je me rappelle, on entendait de chez nous les sirènes des policiers, et c'était étrange, hein, c'était un peu comme de se demander qu'est-ce qui se passe. Et je me rappelle l'impression, le sentiment de fragilité sociale qui a suivi. Donc ce sentiment de dire, est-ce qu'on reconnaît notre Québec? Est-ce qu'on est bien chez nous? Tout d'un coup, c'était un peu comme si on était dans des histoires qu'on entendait aux États-Unis, mais où on ne se reconnaissait pas. Donc, un sentiment de vulnérabilité au niveau de la société.
Docteur Rousseau, Marc Lépine, Camille Garbi, c'est le même individu, et rentré là dans un but, c'est-à-dire lutter contre le féminisme. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit dans une classe où il y avait 9 femmes qui étaient rassemblées. Et parmi ces 9 femmes-là, il y avait Nathalie Provost, qu'on connaît, qui est maintenant en politique, qui s'est adressée à Camille Garbi en lui disant « Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? » Et Nathalie Provost semblait vouloir prendre les devants pour tenter de contenir l'individu. Il dit « Moi, je suis là parce que je lutte contre le féminisme. » Et Nathalie Provost lui avait dit à ce moment-là « Mais on n'est pas des féministes. On n'a jamais lutté contre les hommes. » Et lui, à ce moment-là, aurait décidé de tirer à gauche et à droite sur le groupe de femmes. Une trentaine de balles qui atteignent ces 9 femmes-là. Comment un individu, à l'intérieur de sa tête, peut en venir à penser que le féminisme, exemple, ou toute autre cause, là, ça peut être néfaste pour une société, puis vouloir tuer toutes les gens qui font partie de ce féminisme-là?
Moi, j'ai ramené un petit peu plus de complexité, c'est-à-dire que, et une position de psychiatre, hein, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que c'est nécessairement la raison principale. Donc, pour la société québécoise, ça a été un réveil brutal de se dire, attention, les femmes sont vulnérables et les droits des femmes, c'est pas encore acquis. Pour cette personne-là, ce jeune, et là, on le saura jamais puisqu'il est décédé, je crois que la question était plus complexe. Qu'en fait, il projetait vers les femmes son désespoir et sa détresse personnelle. Un jeune qui n'avait pas eu un parcours facile, qui avait échoué. Je pense qu'il y avait énormément de ressentiment face à ses échecs. Et finalement, quand on met on a du ressentiment. Quand on est fâché, on va essayer de chercher qui est responsable, un bouc émissaire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ces temps-ci, on a une remontée de la haine envers les femmes, mais aussi envers les immigrants, envers beaucoup de gens, les communautés LGBTQ. Et on est un peu dans ces mécanismes-là où finalement on projette sur des groupes qu'on considère vulnérables notre ressentiment en se disant « ma vie est difficile, j'ai pas ce qui me serait dû, c'est injuste, et donc qui est responsable ? Je vais trouver et porter ma colère vers les gens responsables. » Vous voyez, la question du féminisme est importante, il faut défendre ces droits des femmes. En même temps, il faut considérer chez des individus vulnérables, et je pense que, quel que soit le nom qu'on lui donne, cette personne en était une, ce qui n'exclut pas sa responsabilité, hein, mais il faut considérer le désespoir. Parce que si on ne considère pas le désespoir, les solutions qu'on va apporter seront inefficaces.
Marc Lépine était un radical violent, un tueur. Comment il en est venu à devenir cet individu-là? Est-ce qu'on parle d'isolement? Parce que je comprends qu'il n'y a pas eu une relation facile avec sa mère, son père aussi, qui n'était pas très présent, qui n'était pas le meilleur père de la Terre. Mais son entourage, je ne sais pas, cet individu-là, quand vous rencontrez ces individus-là, parce que vous êtes de la Chaire de recherche du Canada en radicalisation violente, comment on fait pour désamorcer ces individus-là puis leur changer leur mode de pensée?
Alors, c'est vraiment important de voir que ces temps-ci, à cause des médias sociaux, de ce qui circule, notre société est beaucoup plus polarisée qu'avant et on a depuis 10 ans une remontée de la misogynie et de toutes les formes de haine dont je vous parlais avant et que pour des individus vulnérables, donc des gens qui que la société considère comme des losers, hein, qui ont de la difficulté à terminer leurs études, de la difficulté à avoir des jobs, de la difficulté à se trouver une place, à être entendu, à avoir une blonde, et ça c'est en majorité c'est ainsi des hommes qui se retrouvent dans des situations de désespoir et de rage. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'ils peuvent avoir des discours radicaux, mais c'est pas en les faisant changer d'idée qu'on va améliorer les choses. Ce que nous, on a prouvé en termes d'intervention, c'est que quand on crée du lien, quand les gens se sentent moins isolés, quand ils se sentent écoutés, même s'ils savent qu'on n'est pas d'accord, donc il ne s'agit pas de justifier des propos comme ça, mais d'essayer de chercher la détresse en arrière, à ce moment-là, on arrive à éviter des drames. Donc, c'est de se dire des drames comme ça, comme aussi pour Québec, on pense au tueur avec le sabre à Québec, ouais. On pense et bien sûr à Alexandre Bissonnette. Ces tragédies ont une racine commune qui est ce désespoir. Alors, il y a deux choses distinctes. Au niveau de nos sociétés, il faut bien sûr comprendre la misogynie, voir ce qui se passe et trouver des façons efficaces au niveau de l'espace public de contrer ces phénomènes-là, et ça, c'est loin d'être gagné. Mais au niveau des individus vulnérables qui, finalement, sont à risque de passer à l'acte, ce qui importe, pour quelle que soit la forme de radicalisation, c'est de s'adresser à la détresse, de diminuer le désespoir et de diminuer l'isolement. Et à ce moment-là, on diminue énormément le risque.
Madame Rousseau, ce sont des choses quand même que vous évoquez qui sont plus faciles avec des experts, une fois qu'il y a une prise en charge, une fois qu'il y a une identification de cette détresse-là, autant par la personne, sinon par son entourage. Mais au niveau de la société, actuellement, le web ne doit pas aider parce que ça crée quand même des groupuscules, des gens qui vont aller chatter ensemble, qui vont jaser de ça ensemble et qui vont peut-être se monter des idées. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus?
Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison. Au niveau social, il faut travailler sur la question des attitudes, mais en essayant de comprendre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes masculinistes en ce moment en ligne, hein, toute une panoplie d'idées masculinistes aussi qui circulent, et ça se traduit par plus de violences conjugales. Il y a une augmentation au niveau du Canada et du Québec en particulier, et plus de féminicides. C'est pas dramatique, mais ça augmente. Et donc, il faut faire attention. Et l'idée, c'est de se dire qu'il faut à la fois travailler au niveau des attitudes qui circulent. Et pour ça, les médias sont importants. Donc, bien sûr, il faut insister sur l'égalité homme-femme, mais aussi comprendre pourquoi ces temps-ci, les hommes se sentent fragilisés. Qu'est-ce qui justifie des discours comme ça? Encore une fois, comprendre, ça n'est pas justifié. Hein. C'est essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est une chose. pour des individus vulnérables, quand les gens sont inquiets, ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe des ressources au niveau du Québec où on peut chercher de l'aide pour les aider. Alors, vous dites, est-ce que ça prend une expertise? Oui, parce que souvent, c'est des personnes qui finalement font peur à leurs écoles, à leur milieu, à leurs voisins, quelquefois à leur famille. Et c'est de se dire, tout n'est pas perdu. Et plus on isole la personne, plus on augmente le risque. Alors que si on tend la main et qu'on comprend, habituellement, on trouve une solution pour le meilleur intérêt de tout le monde.
Parfois, on parle avec des individus. Il y avait un cas assez typique dans le journal hier où l'homme était persuadé qu'il était en amour avec Lara Fabian. Et sa propre famille, ses amis lui disaient « Mais écoute, c'est impossible que ce soit la vraie Lara Fabian. Lara Fabian t'enverrait pas de l'argent. » Et l'homme continuait dans sa tête à penser que Lara Fabian est en amour avec lui. Il continuait d'envoyer de l'argent à Lara Fabian. Ça doit pas être facile pour des gens qui entourent les plus radicaux de tenter de les convaincre d'aller demander de l'aide. C'est quoi les trucs que vous pourriez peut-être nous donner, Dr Rousseau, pour dire à ces gens-là, écoute, tu sais, la Terre est pas plate, là, puis les extraterrestres débarqueront pas demain, puis il n'y a pas de gouvernement mondial. Il faudrait peut-être que tu ailles consulter, mais ces gens-là se sentent insultés quand on
ou
dit
persécutés
ça.
Même, des ouais. fois.
Oui, tout à fait. Alors, ce que vous dites est important parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de familles et de proches qui sont soit en détresse, soit très préoccupées et qui ont peur. Et plutôt que de pousser quelqu'un à consulter, parce que la personne peut ne pas vouloir consulter en se disant « je suis pas fou hein? ». Vous me dites d'aller consulter, mais le problème, c'est pas moi. Ils le sentent pas comme ça. Et donc, nous, ce qu'on fait énormément, c'est on dit aux familles, aux proches, aux écoles « venez vous chercher de l'aide. On va réfléchir ensemble, on va comprendre ce qui se passe pour votre proche, votre enfant, votre fils, votre mari, votre voisin, hein. Et ensemble, on va élaborer des solutions. Et c'est tout à fait étonnant comment ça peut marcher. Donc l'idée, c'est plutôt que de s'obstiner à pousser quelqu'un qui veut pas y aller à consulter, on se met tous ensemble, on recrée un village, en disant, nous, on va aider la famille, on va aider les proches, on va aider l'école. Et c'est tout à fait intéressant comment on arrive à trouver des zones où cette personne qui est vulnérable a envie d'être aidée. Ça peut être au niveau du logement, ça peut être au niveau des études, ça peut être au niveau d'aller faire du skate dans la rue. Mais c'est de chercher ensemble avec les gens qu'ils connaissent comment on peut raccrocher la personne à la vie. Bien sûr, ensuite, ça prend une expertise quelquefois spécialisée, mais vous voyez, il ne faut pas baisser les bras parce que la personne ne veut pas d'aide. Rappelez-vous, dans le cas de Martin Rouleau-Couture qui avait tué des militaires à Saint-Jean, le ministère de la Santé du Québec et l'Association des psychiatres avaient été blâmés parce que ce papa avait demandé de l'aide. Il avait dit « mon fils va pas bien » et tout le monde lui avait dit « on ne peut rien faire parce qu'il est adulte et qu'il ne veut pas ». Et finalement, ce que le coroner avait dit, c'est qu'on aurait dû faire quelque chose. Ce papa demandait de l'aide, il avait raison. Donc, le message pour les proches, pour les parents qui sont inquiets, c'est de dire, parlez-en. Il ne faut pas rester dans le silence, il ne faut pas rester dans la peur. Tendre la main, il y a des solutions possibles.
Ça a été un plaisir de parler avec vous, Dr Rousseau.
Merci.
Passez un excellent vendredi. Céline Rousseau, elle est docteur psychiatre, donc en pédopsychiatrie. Elle est professeure titulaire à la chaire de recherche du Canada en radicalisation violente. Puis, écoute, le dossier dans la presse le laisse froid dans le dos parce qu'on décrit minute par minute tout ce qui s'est passé, de l'entrée de Marc Lépine à la Polytechnique jusqu'à ses discussions ouais. avec les femmes qu'il était sur le point d'abattre. C'est hallucinant. Ça s'appelle « Le récit d'une tragédie ». Puis demain, écoute, c'est pas un anniversaire, mais on se souvient de ce qui s'est passé en 1989, le 6 décembre 1989. Marc Lépine, j'ai fait un dossier complet là-dessus. Je pense que c'est encore disponible là, sur notre YouTube Boulevard, où je parlais un peu de sa vie, son enfance, son père qui était un violent, un alcoolique, un toxicomane, qui traitait sa mère et ses sœurs comme de la merde. Et il semble avoir eu une enfance qui n'était pas nécessairement facile. Ses relations avec les femmes était très particulière aussi, avait des difficultés à rencontrer des femmes puis avoir des relations sérieuses. Puis à un moment donné, bien, il était tellement écœuré d'avoir le nom de son père. Le nom de son père, c'était Lias Garbi. Donc ça, c'était le nom de famille de son père. Je me rappelle pas, c'est un Marocain, son père. C'est un père algérien, donc voilà. C'était Rachid Lias Garbi. Puis il était tellement écœuré de l'attitude de son père qu'il a décidé de changer son nom pour Marc Lépine. Puis, comme il avait de la difficulté à interagir avec les femmes, puis c'est ce qu'il voulait le plus au monde, avoir une conjointe, de ce qu'on nous expliquait. Puis par rapport à son intelligence, parce que des fois, des gens peuvent minimiser l'intelligence de certains individus qui s'isolent et qui se radicalisent. Dans son cas, lui, il était vu comme un homme extrêmement intelligent. Donc, la radicalisation, c'est pas uniquement réservé pour les tarés de notre société. Là. Ça peut être aussi des gens qui ont un quotient intellectuel quand même assez élevé.
Souvent, c'est la corrélation plutôt de la sociabilisation qui est défaillante.
Et dans son cas, il y avait énormément de misère à sociabiliser. Il avait étudié un peu à la Polytechnique de Montréal, mais il n'avait pas complété son cours. Il était supposé être admis aussi en 1980-1981. Il était supposé être admis dans les Forces armées canadiennes, mais les Forces armées canadiennes avait détecté chez lui une attitude antisociale. On ne détectait pas de leadership là, dans son cas. Donc, sa candidature a été refusée. Puis ça aussi, ça l'avait mis complètement à terre à l'époque.
C'est fou comment l'enfance est le berceau de plein de comportements, de plein d'individus, ouais, de plein de détresses. À quel point... Moi, je te dis, Yann, ça fait des années qu'on travaille ensemble, puis on travaille ensemble quotidiennement. Mm-hmm. Moi, il y a de quoi que je ne saisis pas. À quel point on donne pas d'importance à l'enfance en société. On en parle...
Alors que tout part de là.
Et puis on se rend compte avec l'effet entonnoir. Tu sais, la DPJ, tu vois comment ça fonctionne. Tu vois les dommages collatéraux de tout ça. C'est pour compte à 18 ans avec tes bagages. Encore, à tout le monde en parle, on avait une intervenante en fin de semaine. Mais l'enfance est le berceau de beaucoup. Puis quand tu as des parents qui n'ont pas nécessairement la possibilité ou les outils pour élever leurs enfants d'une manière, ben on en parle. Mais quand tu as des parents qui ont aussi baigné dans une enfance problématique et qui vivent de la détresse, c'est quoi les outils? Parce que assurément, on voit une corrélation dans ce temps-là entre la capacité de gérer ses émotions, la capacité d'entrer en contact avec les autres, puis la manière dont tu vas gérer la vie.
Puis les gens sont encore fessés de ça. Là, on parlait des témoins qu'on entend, qu'on voit une fois de temps en temps, tout le monde en parle, qui sont fessés parce qu'ils ont assisté à ça, ils ne s'attendaient pas à ça. J'ai croisé, là, deux étés, un des individus qui avait croisé le chemin de celui qui se promenait à l'Halloween avec son sable. Ouais. Ben lui, là, il est toujours pas retourné au travail.
Ah, ça doit être extrêmement difficile.
Puis est-ce que tu sais... Lui, ce qu'il m'a dit, là, c'est que la raison pour laquelle il n'a pas été sabré, c'est que l'individu, quand il est passé à côté de lui, il a pensé que c'était un enfant. Parce que l'homme d'à peu près 35-40 ans était tout petit. Donc il était avec ses deux jeunes. Puis il a dit: ah, ça, c'est des enfants, je ne m'attaquerai pas à eux. Ouais. Puis lui, il est toujours pas retourné à job. Là. Il y en a qui sont vraiment shakés de ça.
Imagine. Mm. Tu y penses là, quand l'Halloween s'en vient là, à cet événement-là, puis c'est encore ce qui te saisit. Ben, en tout cas, moi, je trouve, là, l'Halloween s'en vient, puis à chaque fois, je me dis, « Eh, c'est vrai, ça s'est passé. »
Puis avec Marc-Antoine Sinotte, que vous pouvez entendre à Salut Bonjour.
Charles-Antoine.
C'est Charles-Antoine Sinotte que vous pouvez entendre à Salut Bonjour, que j'ai eu en entrevue. On parlait des fameux, tu sais, les Grecs, là. Tu sais, si tu t'en vas à gauche, ça va être ça ta vie. Si tu t'en vas à droite, bien ça, des Y, tu vas en avoir toute ta vie. Puis au même titre que Hitler, s'il avait été pris au Beaux-Arts, parce que c'est un artiste peintre.
Dans les deux versions, oui.
S'il avait été pris au Beaux-Arts, il n'aurait pas fait la Première Guerre mondiale. Il n'aurait pas fait la Deuxième non plus. Puis il est un acteur majeur, on va se le dire. S'il avait été pris au Beaux-Arts, dans le cas de Marc Lépine, s'il avait été pris dans l'armée canadienne, il s'est fait sacrer dehors, il s'est fait rejeter. Là. S'il avait été pris dans l'armée canadienne, il n'y aurait probablement pas eu cet événement-là.
Mais on revient au bout du Y.
C'est capoté.
Avant que tu aies deux chemins devant toi, il y en a un que tu ne choisis pas. Puis c'est où tu nais, dans quelle famille tu nais.
C'est weird. Max, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité?
De dernière minute, c'est le journal qui nous rapporte qu'il y a une pétition présentement qui circule auprès des membres du Parti libéral du Québec pour que Pablo Rodriguez donne sa démission comme chef du PLQ, le bureau parlementaire qui a obtenu un courriel dans lequel figure cette pétition en faveur de la démission de Pablo Rodriguez, courriel intitulé « Intégrité PLQ » qui demande aux membres signataires de renvoyer une copie numérisée avisés du formulaire. On leur demande d'inscrire leur nom, leur courriel, leur numéro de membre et leur circonscription électorale. Pour l'instant, on n'a pas réussi à apprendre le nombre de signataires, tout ça qui survient au moment où, hier soir, Pablo Rodriguez a annoncé l'exclusion de la députée Sona Lacoyanne-Olivier du caucus libéral et dit avoir appris que la commissaire à l'éthique a lancé une enquête sur l'utilisation des ressources du bureau de circonscription de la députée de Chaumidé. Elle est donc exclue le temps de l'enquête en question. Fait que, à suivre...
C'est la goutte chinoise pour Pablo Rodriguez.
Oui, chaque jour. Chaque jour, il y a quelque chose.
Puis, tu sais, il démissionnera pas, là. Le salaire de Pablo Rodriguez, actuellement, qui est payé uniquement par les membres du Parti libéral puis par le Parti libéral du Québec, c'est 230 000 $. Pensez-vous que le gars va lâcher cette job-là, là? Fait qu'il va falloir qu'on le mette dehors. Si vous le voulez plus, il va falloir le mettre dehors parce que lui, il ne quittera pas, là.
Peut-être que pour lui aussi, le temps qu'il n'y a pas plus d'informations, c'est pas de sa faute puis il n'y a rien fait, là.
Oui, mais il gère mal la crise.
Sauf que, mettons, quitter, là, ouais. ce serait-tu admettre quelque chose? Tu sais, admission sans avoir peut-être fait les gestes.
Très bon point, mais malgré qu'on va entendre l'issue des enquêtes pour savoir s'il savait ou pas, mais il n'est pas capable de gérer la crise. Il n'est vraiment pas capable de le faire.
Ah, c'est pas le meilleur pilote d'avion qu'on a vu, là. Non. L'avion politique, là,
c'est
ce moment,
ça. Puis tu sais très bien qu'aux prochaines élections, tu n'iras pas loin avec cet individu-là. Fait qu'il va falloir que vous le mettiez dehors. Est-ce que c'est le désir de tous les députés? Ils ne vous le diront pas.
Ouais,
j'ai parlé avec des députés du Parti libéral, j'ai parlé avec Charles Milliard. Ils m'ont tout dit, puis j'inclus M. Milliard là-dedans, ils m'ont tout dit, on est là pour la famille libérale, il faut faire ce qu'il y a de mieux pour la famille libérale. Il ne capote pas tant que ça, mais il est dans l'attente présentement.
Il capote pas tant que ça. Le gars, il se présentait contre. Il était.
Ouais, mais j'ai trouvé une job de prof, là.
Ben, il est super bien. Je veux dire, ça fait 150 fois que je veux qu'il vienne à Marceau le soir puis que vous ayez à nouveau une conversation d'une heure. Puis je le comprends. Dire, sais-tu quoi, je vais rester un petit peu à l'écart en ce moment. Je le comprends, là.
On est rendu là. Sinon, Max?
Début mouvementé, une semaine mouvementée pour un autre individu, le nouveau ministre fédéral responsable des langues officielles, Mark Miller, qui a été convoqué à témoigner devant le Comité permanent de langues officielles quelques jours après sa nomination. La motion adoptée à l'unanimité par les membres du comité qui invite précisément Miller à témoigner pour une période de 2 heures concernant sa position sur le déclin du français au Canada, incluant au Québec. La presse qui rapporte que le ministre Miller était déjà attendu hier devant le comité pour répondre aux questions entourant l'étude sur l'usage du français par le premier ministre Mark Carney, mais il ne s'est pas présenté. Le président du comité, le libéral Ivan Baker, qui a indiqué que le ministre Miller était invité, il a décliné pour aujourd'hui, mais je pense qu'il a exprimé la volonté de venir dans le futur. Puis, questionné par le conservateur Joël Godin sur sa reconnaissance du déclin du français, le président du Conseil du Trésor, Shafkat Ali, qui a refusé de se prononcer. Et Ottawa enverra un avis officiel au constructeur automobile Stellantis pour défaut de paiement. C'est ce qu'a annoncé la ministre Mélanie Joly devant le comité permanent du commerce international de la Chambre des communes, déplorant que l'entreprise n'ait pas l'intention de respecter les contrats de financement liés à ses usines de Windsor et de Brampton. Elle a notamment lancé que défendre ses emplois, c'est défendre le pilier économique du Canada et les moyens de subsistance d'innombrables familles. En octobre, Stellantis qui annonçait le transfert de la production du prochain Jeep Compass de son usine de Brampton à son usine en Illinois, aux États-Unis. Ottawa qui a investi plus de 220 millions de dollars dans le constructeur automobile pour la modernisation de ses usines à Brampton et de Windsor en Ontario.
Au sport,
le Canadien de Montréal qui reprend l'action demain 19h face aux Maple Leafs de Toronto. À Toronto, en dessous de ça, dès dimanche, ce sera retour au Centre Bell face aux Blues de Saint-Louis.
Vont-ils gagner une des deux parties? Ou...
Ils vont gagner face aux Blues dimanche. Demain à Toronto.
Ils vont gagner aussi.
Je pense que je donnerai la victoire aux Leafs.
Deux victoires du Canadien en fin de semaine.
Okay.
Ce sera une boucherie.
44-30, la victoire des Lions de Détroit hier sur les Cowboys de Dallas. Yeah. C'était du côté de Détroit, fait que les Cowboys qui ont bien essayé de remonter en fin de match sans succès. Et dans la NBA, les Raptors aussi de Toronto qui ont tenté de remonter en fin de match et ça n'a pas fonctionné face aux Lakers de Los Angeles.
Si j'avais un match à surveiller en fin de semaine, lequel je devrais surveiller selon toi, Max? J'ai les Falcons qui affrontent les Buccaneers, j'ai les... Excuse-moi, je suis pas à bonne place.
Je regarde les matchs. Bears-Packers, dimanche 16h25, ça devrait en être un pas pire pantoute. Celui de lundi soir sera pas piqué des verres non plus entre les Eagles et les Chargers à Los Angeles. Puis si, mettons, on s'en cible un à 13h là, pour commencer le dimanche de la bonne façon. Colts contre les Jaguars, je pense que ça pourrait en être un pas pire.
Colts-Jaguars.
Ouais, quoique même, tu sais, les Bengals, on les tassait un peu parce que Joe Burrow était blessé là, avec le retour de Joe Burrow depuis la semaine dernière face aux Bills à Buffalo. Ça pourrait être tout un match ça, dimanche 13h.
Toujours bon quand ils s'affrontent eux autres.
T'es fait fort, Max. T'as passé la semaine en étant malade, puis tu travailles.
Là, je t'avais tombé. Là. Ouais. Vous l'avez sûrement entendu dans les dernières minutes. Là, ouais. Là je suis le bord.
Mais là, tu commences ton émission à 10h.
Ouais, fait que là, on va aller. Je sais pas que je vais faire. Là. On va essayer de se replacer. Là. Je vais essayer de trouver des solutions. Là.
Je l'ai dit, le café, ça va te remettre debout.
Ouais, j'en bois déjà du café de ce matin.
Lâche pas. 9h17, on s'arrête. 3, 2, 1.